Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court tous les soirs, une heure, avec un ou une artiste ce soir, Bérangère Cournut.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, taper.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
France Culture.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Bérangère Cournut.
C'est le sang d'une jeune fille qui fait craquer la banquise dans votre dernier roman, Bérangère Cournut. Le premier sang de ses premières règles qui la sépare irrémédiablement, son corps en tout cas, du reste de sa famille, soudainement plongée dans le brouillard, la laissant seule avec des chiens. Les femmes puissantes encourent d'abord tous les dangers, dit l'un des chants inuits que vous écrivez. C'est donc par tous les dangers que va passer Uxuralik pour survivre, mettre au monde des fils et renaître à elle-même. C'est un roman d'initiation à l'invisible, un roman d'aventure aussi, un roman d'introspection et incroyablement d'amour au rythme du vent glacé et des enfants, un roman du déploiement de la puissance que vous faites paraître aux éditions du Tripode. De Pierre et d'Os vient, en plus de tout ça, d'obtenir le prix FNAC. Bonjour et bienvenue, Bérangère Cournut.
Bonjour.
Bravo pour ce prix.
Merci.
On est ravis pour vous et pour les lectrices et les lecteurs. C'est un roman qui commence comme ça.
C'est la troisième lune depuis que le soleil a disparu derrière la ligne d'horizon et la première fois de ma vie que j'ai si mal au ventre. Me décoller du corps chaud de ma sœur et de mon frère, me dégager des peaux qui nous recouvrent, descendre de la plateforme de glace. Sous son dôme, ma famille ressemble à une grosse bête roulée sur elle-même. D'ordinaire, je respire comme tous, du même grognement de mon père, mais cette nuit, une douleur me déchire et m'extrait. Enfiler un pantalon, des bottes, une veste, me glisser hors de la maison de neige. L'air glacé entre dans mes poumons, descend le long de ma colonne vertébrale, vient apaiser la brûlure de mes entrailles. Au-dessus de moi, la nuit est claire comme une aurore. La lune brille comme deux couteaux de femmes assemblés, tranchant sur les bords. Tout autour court un vaste troupeau d'étoiles. La lumière faible et bleutée qui tombe du ciel révèle sous moi un liquide sombre et visqueux. J'approche mon nez de la neige. On dirait que mon ventre délivre du sang et des foies d'oiseaux. Qu'est-ce encore que cela? Penché sur la flaque, je n'ai pas entendu le grondement au loin. Lorsque je sens la vibration dans mes jambes, il est trop tard. La banquise est en train de se fendre à quelques pas de moi. L'igloo est de l'autre côté de la faille, ainsi que le traîneau et les chiens. Je pourrais crier, mais cela ne servirait à rien.
C'est donc par une déchirure, quelque chose qui se sépare, que commence votre texte, dont Lucie Riandet vient de lire « L'Incipit ». C'est une ouverture qui me semble fondamentale pour tout ce qui va se passer après. Le texte vous est arrivé dans cet ordre-là. Cette scène initiale était là, dès le départ.
Elle était là dès le départ, mais c'est surtout que je l'ai lue dans un récit inuit qui s'appelle « Komok l'Eskimo » qui a été rapporté par Robert Flaherty, le réalisateur de « Nanook l'Eskimo ». Et je dois dire que, d'ailleurs, comme toujours, dans la réalité, les choses sont bien pires que dans la fiction, puisque dans le récit de « Komok l'Eskimo », la banquise se fend au milieu de l'igloo. ses parents, une famille avec les parents d'un côté.
Le jour des premières règles ?
Non, alors pas le jour des premières règles. Après, il faut bien inventer des choses quand même pour être un petit peu original. Non, mais disons que voilà. Alors, j'avais été très frappée, moi, par ce récit quand je l'avais découvert parmi mes lectures inuites. Et puis, ce sens des premières règles, il est aussi très, j'allais dire, en fait, c'est pour donner un peu le ton très organique du roman, parce que dans toutes mes recherches sur les Inuits, cette dimension est omniprésente. Enfin, je veux dire, on est les mains dans la viande, dans la graisse de phoque, à longueur de peut-être pas de journée, mais enfin, il y a un rapport très organique au monde que je trouvais important de souligner. Et puis enfin, l'autre raison, c'est vrai que dans mon précédent roman, Née contente à Oraibi, on était dans le personnage. C'était un roman de deuil. Le personnage, perdait son père. Il y avait une. Et là, je crois que j'ai réglé de la question de la famille dès les premières lignes. Voilà, il était résolument toute seule dès le départ. Ça, c'était le début d'une autre quête.
Parce que dans la suite de ce début de roman, petit à petit, la silhouette du père sortant de l'igloo à côté de la silhouette de la mère et des frères et sœurs est vraiment quelque chose qui devient invisible, qui se perd dans le brouillard. Et c'est non seulement une séparation parce que la banquise est trouée, mais c'est aussi une séparation parce qu'on ne peut plus voir. Donc c'est vraiment radical, la séparation de la famille dans ce début de roman.
Oui, comme pour en reconstruire une nouvelle, comme on fait toujours dans la vie. Enfin, c'est aussi un symbole du passage des âges. Sans doute que quand on passe de l'état d'enfant à l'adolescence, puis de l'adolescence à l'âge adulte, on adopte un autre regard sur sa famille, un autre regard sur le monde qui nous entoure et sur nos origines. J'ai absolument pas pensé à tout ça au moment où j'ai écrit cette scène inaugurale, mais ça me paraît assez évident maintenant que, voilà, plus qu'une vraie séparation de la famille, il y a disons une nouvelle quête, une nouvelle ère qui s'ouvre pour ce personnage à ce moment-là, qui va partir en quête justement d'autres familles, d'autres périodes de sa vie.
Et qui va en connaître plein, c'est aussi la merveille de ce texte-là, c'est la manière dont la circulation, presque des appartenances en fait, la manière dont d'un seul coup on appartient à un groupe pour un temps, pour une saison, pour un été, le temps que l'herbe réapparaisse, mais aussi la circulation des âmes qui vont d'un nouveau-né à un autre, mais on y viendra plus tard, Bérangère Kouign, quelque chose que vous racontez avec, je trouve presque une grande simplicité, mais pour rester sur cette ouverture, est-ce que vous dites du caractère organique ? Vous dites on est les mains dans la graisse, dans les différentes eaux, mais là aussi on est le nez sur le sang. Tout comme pendant tout le reste du roman, cette dimension du corps de la femme sera jamais édulcorée.
Alors elle sera pas édulcorée, et alors pourtant ça faisait vraiment pas partie de mes objectifs. Je crois que c'est venu naturellement. J'ai beau être concernée à titre personnel, comme toute femme, je pense, par ces questions-là, surtout en ce moment et tout ça, mais alors vraiment, c'était pas du tout un des objectifs du roman. Je pense que c'est vraiment cette approche de la culture inuite qui m'a menée vers ça. Et par contre, oui, si quelque chose qui a mené le roman, c'est qu'en fait, alors bizarrement, j'ai eu l'histoire assez vite en tête, elle tourne quand même autour de la question de la maternité, mais plutôt dans le sens où je trouvais que le corps des femmes chez les Inuits, puisque la naissance d'un enfant est forcément le retour d'un ancêtre, je trouvais que le corps de la femme était la jonction parfaite entre le monde des vivants et le monde des morts. Et que, en fait, c'est tout à fait le rôle joué de façon connu, reconnu par le chaman, et en fait il me semblait que c'était avant tout le rôle, enfin au niveau spirituel c'est le rôle joué par le chaman, et au niveau organique c'est le rôle joué par la femme. Et cette question du chamanisme aussi, qui est, alors il existe des femmes chamanes chez les Inuits, mais c'est vrai que c'est plus fréquemment des hommes dans les récits qu'on peut trouver, mais il me semblait que cette fonction revenait... Ça paraît pas du tout hérétique de confier cette fonction-là au corps de la femme.
Vous parlez beaucoup et vous rendez hommage, y compris à la fin de votre livre, à vos lectures inuites. Peut-être faut dire un petit peu plus de choses sur les conditions d'écriture de ce roman-là, Bérangère Kouign, peut-être aussi d'une résidence, des fonds d'archives que vous avez consultés. Combien de temps pour l'écriture de ce texte et avec quel matériel ?
Alors l'écriture, c'est toujours un peu difficile à mesurer. En tout cas, la rencontre avec la culture inuite, c'est en 2011, en même temps qu'avec les Hopis, par des livres d'art, je dois dire. Après, il y a un long temps.
Donc, alors, d'abord par leur réalisation.
Oui, en fait, les voilà, juste le fait de voir des petites sculptures en pierre tendre et en os. Et ça, encore, à ce moment-là, je n'avais vu que des photos, mais ce sont des toutes petites sculptures qui m'ont vraiment, je le dis souvent, mais qui m'ont complètement happée, à la fois par leur simplicité, une forme d'épure comme ça, et leur puissance évocatoire. Et c'est vrai que je crois que mon premier sentiment, ça a été de me dire, j'ai envie d'en savoir plus sur un peuple qui est capable de produire ce type d'objet, parce que ça révèle aussi une connaissance de la nature qui est, je sais pas, voilà, qui est à côté de nous, un discours scientifique, affectif, etc. Là, j'avais l'impression que la forme parfaite était atteinte pour évoquer l'ours, même si je connais assez mal les ours, hein, je dois l'avouer. Mais enfin voilà, il y avait cet appel-là. Donc tout d'abord, pareil, un peu comme pour les Hopis, l'intérêt premier, il est, je vais dire, personnel, de curiosité. Et puis les lectures se faisant, d'abord en écumant les fonds de bibliothèque, les fonds de librairie d'occasion, puisque j'ai la fâcheuse tendance à aller toujours par des chemins de traverse et pas aller vers les ouvrages les plus connus. L'idée d'un roman s'est imposée quasiment en même temps que... Enfin, un roman inuit s'est imposé quasiment en même temps que l'idée d'un roman Hopi. Mais à l'époque, j'étais plutôt sur le territoire des Hopis, ou en tout cas proche du territoire des Hopis. Mais voilà, donc je pense qu'il y a eu, on va dire, entre 2011 et 2000, il y a dû avoir 4 années de documentation, peut-être 3 ans d'écriture, je dirais.
Où les deux romans sont écrits de manière concomitante. Vous dites souvent que ce sont deux romans qui sont jumeaux.
Oui, oui, oui. Et je ferai pas un triplé derrière. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'était une démarche. En fait, la documentation s'est faite quasiment en même temps. Alors, plus intensément à propos des Hopis quand j'écrivais le roman Né contente à Oraibi, mais pour me détendre, je lisais sur les Inuits. et surtout, ce sont des lectures qui m'ont accompagnée et qui m'ont moi aidée à des moments voilà plus ou moins faciles ou difficiles de la vie. Et en fait, je me suis vraiment imprégnée de ces cultures-là dans leur rapport, voilà, et essentiellement dans leur rapport à la mort et au vivant. J'ai assez fascinée par ce rapport qui est à la fois complexe et très simple, surtout tellement éloigné d'une autre. Et voilà.
On y reviendra parce que c'est évidemment au cœur de votre texte, mais puisque vous évoquez ces petites statuettes et que vous dites qu'en les voyant, vous vous disiez que c'était comme atteindre une forme parfaite pour... je sais pas si c'est pour dire l'ours ou pour que quelque chose existe. Est-ce que vous pensez que ça a une traduction ou que ça a eu une influence sur la forme littéraire? Je disais tout à l'heure que pour moi, une des joies de la lecture, même si j'aime énormément les choses complexes, mais de ce texte-là, ça a été d'y trouver une forme d'épure.
Oui, ça a compté. C'est tous des intérêts mêlés. Pour moi, c'est difficile de voir ce qui arrive en premier, mais c'est sûr qu'au moment, par exemple, de choisir le style de ce roman...
qui est quelque chose que vous faites... consciemment, quoi, une décision, je vais choisir le style de ce roman.
Pas très consciemment, mais dont je m'aperçois au moment où je commence à écrire. Et effectivement, alors autant dans Né contente à Oraibi, j'avais choisi un style beaucoup plus linéaire que ce que j'avais jamais fait avant, beaucoup plus humble, j'allais dire, avec presque une volonté d'expliquer les choses, mais d'aller doucement vers ce peuple à la culture très complexe. Donc j'estimais qu'il fallait une forme de simplicité et d'humilité qui collait aussi à l'état d'esprit des Hopis. Alors chez les Inuits, il y a cette même forme d'humilité, mais on n'est pas dans les mêmes conditions. Et en fait, l'image qui m'accompagnait quand j'ai commencé à écrire, c'était de dire je vais avoir une écriture qui est beaucoup plus, alors faut pas que je le dise trop vite, croc de chien, comme un croc de chien, donc plus incisive, parce que tout appelait ça, le mode de vie inuit, tout appelait ça. Et vous voyez maintenant, donc pendant que j'écrivais, j'avais une image de brutalité presque, enfin de quelque chose d'incisif. Et je dois dire que maintenant que le roman est fini, un petit peu éloigné, parce qu'en plus j'ai fini de l'écrire il y a plus d'un, je sais plus, un an ou deux ans, non, au moins une année. Peut-être deux, non, enfin je sais plus exactement. Et ben là, vous voyez, quand je vous parle du croc ou de la canine du chien, je vois aussi tout ce qu'elle a de doux dans sa surface,
qui est incroyablement lisse.
Et je crois que c'est vraiment un mélange des deux, en fait. Et ce que je ressens aussi très fortement vis-à-vis de la culture des Inuits, qui est à la fois quelque chose d'extrêmement bienveillant dans tout un tas de pratiques et quelque chose d'extrêmement violent à certains égards. ce qu'on imagine aisément aussi quand on imagine les conditions de vie dans l'Arctique.
On parlait tout à l'heure des chemins de traverse, la manière dont vous commencez d'abord par des librairies d'occasion, peut-être de trouver des livres qui vous trouvent aussi, Bérangère Cornut. Mais il y a un moment donné où vous avez peut-être plus les pieds dans des fonds, on va dire, oui, officiels, oui, qu'un autre temps de l'écriture, un autre temps de la recherche, ou qui est peut-être concomitant.
Alors, c'est quel temps? Oui, ça vient assez tard. En fait, alors, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, un des premiers livres... Alors, je tiens à parler. Il y a un livre qui m'a fait, comme pour Soleil Hopi, enfin, quand il y avait Soleil Hopi pour le roman Hopi, qui était l'autobiographie de Don Taliesva, qui m'avait fait basculer, en me disant, c'est possible d'écrire de la littérature à partir des Hopi. Là, il y a un livre qui s'appelle Mon passé esquimau, de Georges Cooper-Simon, qui est paru dans une collection chez Gallimard. Pareil, qui est un récit de vie d'un Inuit avant sa conversion au christianisme, et qui parle de toute cette vie qu'on appelait à l'époque païenne, etc. Et là, c'est saisissant parce que c'est ça qui m'a fait comprendre à quel point on peut parler de choses... enfin, des esprits et des pratiques chamaniques avec, sans aucun recul, pas le recul qui est le nôtre, nous, dans notre culture occidentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vous dit qu'il a rencontré des esprits, et de la façon dont il le dit, c'est absolument impensable de remettre en doute ce qu'il est en train de dire. On n'a plus cette distance. Et ça, j'ai trouvé ça, d'un point de vue littéraire, je dis, mais c'est à ça qu'il faudrait parvenir si on veut essayer d'écrire un roman sur les Inuits. Et ensuite un autre livre beaucoup moins connu, celui-là, qui était un livre de Robert Gessin sur Ovibos, le bœuf musqué. Et je sais que ce livre m'a accompagnée. Alors, oserais-je le dire, c'est pas un des livres les plus palpitants que j'ai lus sur la culture inuite, mais il se trouve que je pense maintenant je vois ça comme un signe, parce que Robert Gessin a été le directeur du Musée de l'Homme. Et en fait, il se trouve que dans la dernière année d'écriture du roman, je suis effectivement arrivée en résidence au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est là que j'ai découvert les 30 000... Je les ai pas tous ouverts, tous parcourus, ni même simplement lu leur titre. Il y a 30 000 ouvrages dans le fond polaire Jean Mallory des bibliothèques du Muséum d'Histoire Naturelle. Et surtout pour moi, les archives de Paul-Émile Victor. Et c'est là que j'ai découvert...
Vous dire un petit mot sur cette figure d'explorateur,
Paul-Émile Victor? Oui, alors voilà, Paul-Émile Victor qui va dans l'Arctique, donc jeune étudiant en ethnologie, je sais pas si ça s'appelait ethnologie à l'époque, au Musée de l'Homme, et qui part... alors qui aime beaucoup les îles Bora Bora et l'Arctique, et il se trouve qu'il a une occasion plutôt pour rejoindre le commandant Charcot, et qui part entre 1934 et 1937. Il fera deux séjours longs dans l'Arctique, et notamment auprès de la communauté d'Amasalik sur la côte est du Groenland, qui à l'époque était une région, toute petite région du Groenland qui était très intéressante, qui était ce qu'on appelle un isola en anthropologie, c'est-à-dire une partie de la population qui avait été découverte par les Danois en 1880, donc seulement 50 ans avant, et qui donc avait encore une partie de ses traditions relativement inchangées par rapport à un mode de vie traditionnel avant que les Danois ou les Américains arrivent dans l'espace arctique. Et pour moi, ça a fait... Alors, même si tout mon roman a été construit de ça, par contre, ça a été quelque chose, une rencontre décisive, dans le sens où ça m'a... j'ai vu toutes ces notes, tous ces dessins, toutes les photos, et il décrit avec le talent qui est le sien. Alors, d'abord, une énorme rigueur scientifique, puisque le matériel ethnographique est énorme, colossal, et surtout il a le génie de dessiner ce qu'il voit. Donc d'un point de vue technique, ça m'a énormément aidée en fait, parce que je vous avouerai que la chasse au harpon, j'étais pas forcément très spécialiste.
Ni toutes les opérations de dépeçage, de tannage, de cuisine que vous décrivez, de mâcher des petits cartilages, tout à fait, très présent.
Oui, et c'était important, et je pense que ça a donné cette dimension sensible à beaucoup de passages du roman.
Vous parliez de ce grand fond de plusieurs milliers d'ouvrages, Jean Mallory, on va écouter sa voix.
Dans l'Arctique, c'est beaucoup plus large cette nature, c'est le cosmos. Quand on est, comme moi, seul, avec mon traîneau à chien, en pleine nuit polaire, que vois-je? Mais une cathédrale. C'est le ciel, c'est les étoiles. Et dans un espace vide de son. Mais il y a pourtant, quelque part dans mon oreille, un rite que je sens, c'est cette respiration du cosmos, ou du moins tel que je le ressens. Je le ressens parce que je suis habité par mon imaginaire. Et c'est ce que les anthropologues ont un peu oublié. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Terre humaine. Je ne peux tout de même pas m'empêcher d'aimer, de rêver. Je ne suis pas, voudrais dire, de bois et de glace. Quand je vois un Esquimau, je peux l'aimer, le détester. Mais quand je vois une scène, je peux être ému. Eh bien, l'oreille interne de l'imagination est un stimulant beaucoup plus puissant que tout ce qui peut provenir de l'observation extérieure.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
1999, il est au micro d'Olivier Germain-Thomas. Jean-Mallory qui parle de Terre humaine, on va préciser qu'il s'agit d'une collection littéraire où il a fait paraître de nombreux ouvrages. Je vous voyais sourire en l'écoutant, peut-être sourire à une forme de lyrisme, de manière d'évoquer immédiatement les cathédrales pour parler des ciels étoilés. C'est quelque chose que vous trouvez tendre ?
Non, en fait, je souriais à un conflit intérieur résolu tout récemment, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai la fâcheuse tendance à prendre d'abord les chemins de traverse. Donc en fait, pendant très longtemps, je n'ai pas ouvert Mallory. Ensuite, je l'ai ouvert et je n'ai pas pu lire Mallory parce que, je sais pas comment dire, moi j'avais besoin d'une vision... assez intérieur, j'avais besoin de choses très très matérielles, j'allais dire très et en fait Mallory est un écrivain incroyable, je veux dire on peut parler d'un certain lyrisme, même une certaine emphase par moment, et je pense qu'en fait pour un écrivain la meilleure façon de pas pouvoir écrire sur l'article, c'est sans doute de lire Mallory d'abord. On se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir dire après Jean Mallory. Donc voilà, donc c'est surtout que c'est deux approches complètement différentes. Jean Mallory est quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie dans l'Arctique, qui a consacré, qui le connaît extrêmement bien. Donc on peut être que admiratif de son parcours, écrasé aussi sans doute.
Mais c'est ça, parce qu'il revendique quand même, à la fin de cette archive, en tout cas en 1999, la puissance de la pulsation de l'imaginaire au regard des observations scientifiques. Alors peut-être qu'il le dit là et que c'est pas forcément quelque chose sur lequel il aurait signé contractuellement.
Si, je pense.
Néanmoins, cette puissance de l'imaginaire, c'est ce qui fait le terreau. Vous parlez toute votre documentation, Bérangère Cournut, mais c'est un roman, c'est un texte absolument littéraire.
Ouais.
Pas seulement parce que vous n'avez pas mis les pieds là-bas.
Non, mais effectivement, et puis Mallory, je trouve que, alors voilà, il a ce grand courage, je trouve. Enfin, il parle très volontiers, lui, de ce qu'il a ressenti en tant qu'individu. Il y a même des endroits, parce que maintenant j'arrive à le lire avec plaisir, il revendique, enfin il avoue avoir été lui happé aussi par l'animisme qui a cours chez les Inuits, etc. Et ça, je trouve ça effectivement il faut sans doute s'ouvrir à un imaginaire pour pouvoir appréhender ces cultures là. Moi je tiens à dire, hein, je revendique pas du tout justement cette, même si je me suis énormément documentée et parlé, même interrogé des anthropologues, des ethnologues, moi je revendique vraiment très clairement ma position d'écrivaine, mais c'est vrai que j'allais dire sur le mais d'écrivaine, pas sur l'aventure, en fait. Parce que souvent, moi, ce qui m'importait, c'était de proposer une immersion dans la mesure du possible. Et en fait, souvent, dans le reste de la documentation, on était dans des récits d'explorateurs. Donc, forcément, un peu des gens qui se mettaient un petit peu en scène. Ou des récits scientifiques. Là encore, il y a la distance de la raison occidentale qui empêche peut-être de sentir certaines choses. Et moi, j'avais besoin, voilà, peut-être quelque chose d'une vision plus intérieure. Voilà. Donc, j'ai tenté cette aventure-là. J'ai tenté l'aventure d'une vision intérieure, j'ai tenté de ressentir, cet univers.
Ce qui n'est pas dénué d'aventure, parce que si je disais qu'il s'agit autant d'un roman d'initiation que d'introspection, que d'aventure, je tiens quand même à ce mot-là, parce que cette jeune femme, on la suit, on épouse son désir de absolu de survie, on la suit de clan en clan, de saison en saison. Il y a une dimension quand même de roman d'aventure. Vous n'y tenez pas du tout ?
Non, c'est pas que j'y tiens pas, c'est que c'est difficile de vivre autre chose qu'une aventure, je pense, dans l'Arctique, en fait. Et je pense que chaque vie est quasiment un prodige, il me semble. Et puis c'est surtout qu'en fait, quand on lit les... Enfin, moi, j'ai essayé au maximum, et il n'y en a pas tant que ça, de me documenter directement les récits inuits. Par exemple, un texte comme Le Harpon du chasseur, qui est publié dans une collection qui s'appelle Jardin de Givre à l'Université du Québec, je crois, j'espère pas dire de bêtises. N'importe quel récit inuit est une aventure, en fait. N'importe quelle sortie pour la chasse, n'importe quelle cueillette sur la toundra pour trouver des baies à partir du moment où on peut rencontrer des esprits derrière chacune des pierres qu'on croise. Donc en fait, elle est inévitable, l'aventure, je pense.
Et elle est très intérieure aussi, hein, puisque vous parliez
de
sensations très intimes. Il y a, parmi les violences que rencontre Rouxalik, un viol, le viol du vieux, qui a aussi quelque chose de... Je parlais tout à l'heure de la séparation des premières règles. Le viol intervient assez vite dans le roman. Ça aussi, c'est né de récits que vous avez lus, où ça faisait partie du cheminement que vous vouliez écrire en tant que romancière.
Non, justement, c'est assez curieux. Je sais pas trop. Enfin, en fait, cette scène, elle est venue assez rapidement. Et alors, il y a peu de choses des lectures contemporaines qui se sont infiltrées dans le roman, mais que ce soit les récits plus anciens ou une certaine actualité du sort réservé aux femmes sur certains territoires amérindiens. En fait, je crois que c'était difficilement évitable, cette question des maltraitances faites au corps de la femme. Et en même temps, je l'ai peut-être mise trop tôt parce que, en fait, c'est des maltraitances. Enfin, dans les récits traditionnels, ça peut être la femme, ça peut être l'orphelin aussi, surtout qui est aussi souvent, enfin, qui peut être maltraité ou en tout cas, ou qui va être bien traité en période d'abondance et puis qui va être facilement abandonné en période de restriction. Disons que je me suis dit, je peux pas faire l'économie quand même de cette forme de violence. Mais j'allais dire, c'est comme pour reconstruire après. Et puis surtout, plus loin dans le roman, on comprend aussi d'où elle vient, cette violence. Et on comprend que c'est pas une violence gratuite faite à une femme en particulier ou une jeune femme.
Enfin, elle est prise dans un réseau de violence.
Elle est prise dans un réseau de violence. Elle est prise dans un réseau familial,
de
social,
mémoire,
de mémoire, voilà. Et de combat intérieur pour chacun, y compris pour le violeur. Donc c'est cet homme qu'on appelle le vieux. Et qui est en même temps quelqu'un qui a une autre époque de sa vie, s'est occupé des autres. Enfin, voilà, donc c'est tout. En fait, j'aime beaucoup cette. Il y a une histoire, que j'ai lue après. Je crois que ça, je l'ai lue après avoir fini la rédaction du roman. Mais Rasmussen raconte dans un livre qui s'appelle Du Groenland au Pacifique, il visite plusieurs tribus, plusieurs clans, plusieurs groupes. Et à un moment donné, il arrive dans un groupe et il rencontre un chef qui est à la fois quelqu'un qui a l'air qui est extrêmement cordial, respecté, intelligent, accueillant, donc qui a vraiment l'air d'un patriarche vraiment formidable, et dont on apprend un tout petit peu plus loin que un de ses premiers faits d'armes, c'est d'avoir tué toute la famille de sa première épouse pour conquérir sa première épouse. Et voilà. J'ai eu l'impression dans les récits inuits et tout ça qu'il y avait tout était possible dans le même personnage. Et en fait, je pense aussi que c'est cet environnement qui rend toutes les choses possibles. C'est-à-dire que, sans doute que par moment, pour survivre, alors ça peut être pour des histoires de rivalité, de jalousie, mais il y a beaucoup d'homicides, beaucoup de suicides aussi, pour des raisons très différentes anciennement qu'aujourd'hui. Mais enfin, voilà, il y a une forme de violence, mais est-ce que cette violence, elle n'est pas tout simplement contenue dans l'environnement dans lequel les Inuits évoluent ?
Sinon que, en tout cas, sous votre plume, elle s'exerce à l'égard de femmes. Et de corps de femmes.
Oui, mais il me semble que pas seulement.
Non, pas seulement.
Ouais. Oui, voilà. Donc je pense que du coup ça répond à la question. Et puis surtout, moi, c'est mon point de vue et celui d'une femme. Donc c'est pour ça que. Et puis, est-ce qu'il y en a tant que ça des violences exercées à part ce viol, est-ce qu'il y en a tant que ça des violences exercées Après, il y a des violences plus symboliques, des violences qu'elle s'inflige elle-même, je dirais. Et puis surtout beaucoup de bienveillance quand même, il me semble, beaucoup de soin.
Non, c'est juste que c'est quand même une violence notable qui ouvre le roman et qui du coup, en tout cas pour moi, a été une des manières de teinter l'existence de cette jeune femme qu'on suit.
Oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que des fois je me dis, je l'ai peut-être mis trop tôt, ou je l'ai peut-être... Mais parce qu'en fait c'était presque... Oui, c'est presque un... J'allais dire, elle va presque dans le sens de la banquise se fracture... et d'une certaine façon, la jeune femme se fracture elle aussi après. Et il se trouve que l'instrument de ce viol, c'est un homme, mais j'allais dire, ça pourrait être, je m'emballe un peu comme Mallory maintenant, mais le cosmos. En même temps, enfin voilà, l'instrument du viol et cet ancêtre, enfin et ce vieux, mais j'allais dire, c'est comme la représentation de forces naturelles plus puissantes, plus au-delà de qu'une simple humanité.
On marchait sur cette neige qui s'accumule depuis des mois sans fondre. Puis les chiens partout qui faisaient leur chant, c'est comme une petite chorale qui t'accueille. Puis d'un coup, t'as le vent, là, t'entends plus rien d'autre. Ah, le vent se calme, on réentend les chiens, à la motoneige, après tes pas. Une espèce de... tellement crisp.
Something's coming to life here.
Charlotte comprenait à quel point c'était étonnant.
Chant du renard arctique. Je suis un flocon de neige qui est tombé du ciel jusqu'à une banquise inconnue. Je suis un souffle au creux de la nuit polaire. Je suis un renard blanc qui a fondu. J'ai vécu moins de 2 lunes au milieu d'un peuple de lanternes. J'ai vu des hommes qui vivent sous la glace d'une mer antique à jamais disparue. Je suis le garçon que cherchait la femme de pierre. Je suis l'enfant de l'ours et de l'homme lumière. Mon père fait peur aux humains qui ne le connaissent pas. Aucun de leurs défunts n'a voulu me donner un nom qui soit le sien. Je reviendrai sous une autre forme, à un autre moment. Je suis une étincelle qui n'a vécu qu'un instant, sous le ventre lisse et poreux de ma mère.
C'est l'un des chants qu'on peut lire et qu'on peut presque entendre, Bérangère Cornut, dans votre roman de Pierre et d'Os, c'est celui du renard arctique, vient lire Lucie Riandet. Et juste avant, c'était un extrait d'un documentaire signé Lise Marie Barré et Annabelle Brouard où on entendait une musicienne, Marie-Pascale Dubé, chanter. Au tout début, il y a un petit liminaire au roman qui dit que c'est presque un roman plongé dans l'eau, où l'eau est omniprésente, et les chants. Ces chants-là, ils ont quoi comme rôle rythmique? Ils ont quoi comme existence? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme nécessité dans votre écriture?
Mais d'abord, je tiens à vous remercier pour l'archive parce que je connais pas ce documentaire et j'ai très envie de le voir. Et ce que j'aime,
c'est un documentaire radio.
Ah ben voilà, ça va être donc de l'entendre. Parce que, en fait, je crois que moi, tout à l'heure, j'ai parlé des sculptures, mais en fait, il y a toute forme d'art prise dans l'ensemble de la vie des Inuits. Donc voilà, il y a les sculptures qu'on fait quand on est dans l'igloo. Et puis, il y a aussi des scénettes de théâtre, et puis on a des masques, et puis on a des tambours, et puis... Et oui, et donc effectivement, il y a aussi ces chants. On compose des chants à peu près pour toutes les occasions de la vie, pour la naissance d'un enfant. Une mère va composer un chant, une berceuse, pour raconter un souvenir, pour raconter une histoire ancienne, pour régler des conflits, le chant du duel, qui est souvent le plus connu. Et je veux dire qu'au milieu de ce foisonnement artistique, et c'est ça qui est beau dans l'archive sonore, c'est qu'en fait, on entend à quel point tout ça est mêlé. On entend des gens qui racontent, on entend des gens qui rient, on entend des gens qui chantent. Et ces chants ont des paroles pour certains, ont comme base surtout le son de la voix, le son du souffle même, des fois il n'y a pas de voix, des onomatopées. Et on croit entendre le bruit du vent, effectivement, ou de la neige qui craque, ou certains cris d'animaux. Et c'est vraiment cette espèce d'imbriquement total de tous les aspects de la vie qui m'a frappée. Alors évidemment, dans un roman, c'est difficile de mettre tout ça. Donc j'ai décrit quelques scènes de veillée où on sent cette effervescence, même du sport. Hein, il y a des jeux de saut, des jeux d'agilité. Mais voilà. Et le chant, évidemment. Dans le roman, pouvait prendre une place importante, et pas tellement même comme une respiration, plutôt même comme un fondement presque de l'histoire, parce que ça a été pour moi une source de documentation importante, et alors là, pas de la documentation technique, une forme de documentation pour savoir qu'est-ce qu'expriment les Inuits au quotidien, d'une génération à l'autre. D'un individu à l'autre. C'est une façon, par exemple, le chant de l'enfant à sa mère, c'est une façon de sentir toute la tendresse qui peut passer par ces chants-là. Et évidemment, oui, enfin, dans le roman, ça prenait toute sa place. Et je dois dire que maintenant, évidemment, je suis incapable de relire le roman, parce que je l'ai lu, trop relu. Voilà. Mais par contre, je peux relire les chants les uns après les autres. Parce que alors je les ai tous recomposés, hein, c'est pas il y a qu'un hommage à un chant recueilli par Paul-Émile Victor à un moment donné, et je le cite indirectement en parlant d'Amasalik. Mais sinon je les ai tous recomposés, bien sûr, parce que sinon ça aurait fait plaquer, ça marchait pas.
Parce que ce sont des chants qui respectent. Je crois l'existence qu'ils peuvent avoir dans la vie réelle des Inuits.
C'est oui,
que
tout
dans
à
le
fait,
roman, pour nous, ils arrivent. Ils arrivent toujours à dessein, ils arrivent parce qu'on a besoin d'eux, en fait. Mmh. Ils arrivent parce que c'est des chants qui ont besoin d'être chantés au moment où on en est, nous, dans la lecture. Donc, si ça avait été uniquement des chants qui venaient d'ailleurs,
voilà, ça n'aurait pas marché. Donc, c'est une façon aussi de s'approprier les choses, enfin, leur façon de faire et leur façon de raconter. C'est aussi une façon de faire entendre la polyphonie. En fait, pendant longtemps, j'ai caressé l'espoir un jour d'écrire un roman qui aurait été uniquement animal, avec des personnages uniquement animaux, ou en tout cas... Et pour celui-ci, à un moment donné, j'avais pensé, je t'ai dit, je vais avoir un personnage bœuf musqué, je vais avoir un personnage ours. Et en fait, assez vite, j'en ai senti l'inutilité, parce que ça aurait paru assez artificiel, alors que, justement, ça pouvait passer par les chants. Et en fait, l'esprit des animaux est tellement présent dans la vie des Inuits, dans leur conception du monde, que... imposer le personnage animal devenait inutile, en fait, parce que les animaux sont présents tout le temps, par le fait qu'on s'en vêtit, on s'en chauffe, on s'en nourrit, on les entend, on leur parle.
On discute avec eux quand on doit les tuer.
Oui. Et on les remercie de s'être laissé prendre, et on demande à l'esprit de pouvoir de se réincarner. En fait, c'est une anthropologue qui m'a dit ça. On dit parfois que, en fait, c'est toujours le même chasseur qui chasse toujours le même phoque, dans le sens où le même chasseur se réincarnant d'un corps à l'autre, et le phoque normalement faisant la même chose de son côté, le cycle peut durer éternellement. Et s'ils s'entendent bien, le même chasseur peut chasser le même phoque à l'infini.
Pourvu que ça dure.
Il y a une manière toute particulière de s'adresser à l'ours. C'est une disposition qu'il faut avoir, que le chasseur doit avoir envers tout gibier. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on se rend compte que les animaux et les hommes partagent les mêmes facultés. Ils pensent, ils choisissent. Donc, ils ne font pas que voir, entendre, se déplacer, se reproduire. Mais les animaux, comme les hommes, parlent, décident, choisissent, réfléchissent à la vie, réfléchissent à la mort. Ce qui veut dire que la frontière entre l'homme et l'animal est extrêmement poreuse, extrêmement mince. Et les chasseurs disent qu'ils parlent au gibier, qu'ils parlent à tous les gibiers. Et c'est une parole assez codée, on ne peut pas élever la voix, pas plus qu'on ne le peut envers les humains. Et très souvent, on engage la conversation avec avec des mots qui ne sont pas ceux de tous les jours. Par exemple, on n'appellera jamais l'ours par son nom, on dira que c'est celui qui a de la graisse. Donc on choisira un trait pertinent définissant l'animal pour ne pas l'attaquer directement. Ça peut être une offense que de l'appeler par son nom. Et les ours aussi, dit-on, parlent. Ils parlent un dialecte. Donc ça n'est pas loin de la langue des Inuits. C'est un dialecte, une autre façon de s'exprimer.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
C'est la voix de Michel Therrien en 1988 dans l'émission Nu Magnétique diffusée sur France Culture, ethnologue québécoise qui parle du langage des ours. Je notais rapidement le titre d'un premier roman que j'ai lu de vous, mais il y a 10 ans, Bérangère Cornut, Les Corcobaliseurs, parce qu'en l'écoutant, en parlant de cette circulation de la parole, la porosité entre les animaux et les humains, je me dis que c'est pas bizarre que vous ayez écrit sur les Inuits. Enfin, je veux dire, c'est pas bizarre qu'il y ait eu un rendez-vous possible entre tout ce qu'on dit depuis le début de cette émission et, je sais pas comment on peut dire ça, votre monde ou votre singularité ou votre langue ou votre pensée qu'on sentait poindre dans ce texte-là.
Bah oui, merci. Oui, c'est, enfin, on en a parlé avec mon éditeur et oui, c'est vrai, en fait. Alors tout ça, évidemment, c'est pas conscient, mais c'est vrai que au moment où j'écrivais De Pierre et d'Os, qui s'appelait pas encore De Pierre et d'Os, j'ai eu ce sentiment très fort de retourner, j'allais dire, à mes fondamentaux d'écriture. Et pour Les Corcobaliseurs, qui était quand même un roman assez que j'ai longtemps qualifié de farfelu, d'onérique, d'autres ont dit surréaliste. Moi, j'avais l'impression que c'était un univers très naturel, mais j'avais bien conscience quand même qu'il était assez singulier, on va dire. Et en fait, maintenant, je pense que c'est pas un hasard si j'ai été happée par la culture des Hopis et la culture des Inuits.
C'est une familiarité qui est pas qu'on entende bien, que je veux pas du tout décrire comme étant, je sais pas, une évidence, une linéarité. C'est comme une accointance de pensée, c'est-à-dire qu'on était loin des Inuits dans les Corcobaliseurs, mais quelque chose qui peut se rejoindre.
Oui, et en fait, maintenant, enfin, j'y pensais il y a pas très longtemps. Il y a comme une forme de construction, et c'est une vraie rencontre. Et je pense que moi, j'ai un peu l'habitude de dire que des fois, quand on part en voyage, on voyage à la rencontre de soi-même. Et quand même, par exemple, enfin, un des textes que j'ai publié, je sais plus quelle année, je crois 2009, quelque chose, à Loi de Cravant, j'ai un éditeur québécois et qui s'appelle Nanouchkaya, était aussi. Alors c'est un texte très court, mais qui pour moi est assez fondateur de ce que j'avais envie de faire et envie d'écrire en général, moins d'une vingtaine de pages, et c'est l'histoire d'un petit personnage qui traverse une plaine de Sibérie, et il y a déjà aussi une grande place du froid. Et en fait, tout ça, maintenant que j'ai écrit De Pierre et d'Os, tout ça me paraît assez cohérent, en fait. C'est comme si tout m'avait conduit par là. Ça aurait pu me conduire ailleurs, sans doute, mais il me semble que, en fait, je me dis ça aussi des fois, c'est comme si pendant plusieurs livres quand même avant, je sais pas exactement, peut-être 4 ou 5.
On prépare les autres.
Ben, on prépare les autres ou on est... enfin moi je me sentais un peu comme une enfant qui joue seule dans sa chambre. En plus vous sortez un livre, ça, il se passe absolument rien, ça change la vie de personne et tout va très bien comme ça. J'avais même trouvé une, je sais pas si elle est exacte ou pas, mais une phrase de Michaud qui disait 300 lecteurs, pas plus. Et j'étais très très à l'aise, très bien là-dedans. Et puis d'un seul coup mon compagnon, qui est devenu mon mari, m'emmène au Nouveau-Mexique. Je me fichais complètement de l'Ouest américain, j'y connaissais rien du tout. Et là, d'un seul coup, il y a une rencontre qui se fait avec la culture des Hopis. Quasiment la même semaine, j'allais dire, je trouve un livre avec des sculptures inuites. Et là, c'est comme s'il y avait un monde qui s'ouvrait, et c'est comme si, d'un seul coup, ces cultures-là m'ont ramené au monde. Dans le sens où, d'un seul coup, tous les outils symboliques dont je pensais... être les seuls à les bricoler dans mon coin, d'un seul coup, je les découvre incroyablement déployés depuis des millénaires dans des cultures. Donc, ils m'ont fait gagner un temps incroyable. Les Inuits et les Hopis. Enfin, voilà, je veux dire, c'est comme si je rejoignais d'un seul coup un univers, une forme de liberté, je dirais, de l'imaginaire. Et avant, je me sentais pas tellement appartenir à ce monde-là. Et grâce à eux, j'ai repris pied sur terre, bizarrement, même si c'est des choses très... Alors voilà, en plus, moi, j'avais pas du tout, je veux dire, j'avais pas d'appétence ésotérique, j'avais pas de... Et c'est la rencontre de leur imaginaire, qui est un imaginaire présent à chaque seconde du quotidien, je dirais, qui m'a fait, moi, renouer avec le monde. Parce que j'ai l'impression que sinon... Enfin, il me semble que moi, dans le monde dans lequel j'ai évolué, l'imaginaire, tout le monde a un regard attendri pour ça, mais en vrai, ça a pas tellement d'importance. Et alors qu'en fait, ça en a une énorme. Et moi, ça m'a permis de... J'allais dire de survivre, j'ai pas encouru de grands périls dans ma vie, mais je veux dire, ça m'a beaucoup aidé à grandir, à devenir
une... C'est peut-être tout bêtement ça, en fait, le point de jonction.
Je crois.
C'est la puissance de l'imaginaire.
Ouais.
Ou de ce que nous, on va appeler l'imaginaire, et puis que d'autres vont nommer autrement.
Oui,
mais c'est cet endroit-là. C'est la possibilité que ça, c'est là, et que ça a de la valeur, et que c'est même vivace et vivant.
Naja demande à ce que la lampe soit voilée un instant. Il s'approche du ventre de la mère et cherche à comprendre ce qui retient l'enfant. Il s'adresse directement à lui, dans la langue ancienne des chamans. Après quelques instants, il demande à ce que la lumière soit faite à nouveau et s'adresse à la femme. « Que crois-tu attendre ?» La femme du frère de Pukajak le fixe d'un air effrayé. « Réponds, qui attends-tu ?» La femme enfin lâche un cri. Un fils vivant. La courroie enduite de sa salive tombe sur son ventre. C'est une fille qui arrive, laisse-la venir. Maintenant la femme hurle. Et l'accoucheuse lui tient les cuisses. Naja s'adresse à elle. N'essaie pas de changer le sexe de cet enfant. Tu n'as rien dit de mal, contente-toi de l'attendre. Les cris de la mère cessent un instant et reprennent de plus belle. Va chercher Hila. Me demande Naja d'un ton ferme. Je ressors et entre à nouveau avec ma fille. Nous sommes 4 femmes et un chaman autour de la fente qui se crée. La tête apparaît, elle descend, mais elle est bleue, le cou ceint d'un cordon blanc. La coucheuse aux mains enduites de graisse va chercher avec 2 doigts ce qu'elle ne peut nommer, les clavicules de l'enfant. Naja demande à Hila de réciter quelque chose. Hila comprend qu'on lui demande un des charmes de Sonic. L'été n'est pas là, il est sous la neige. Mais l'herbe se dressera bientôt, pourvu qu'un souffle entre dedans. L'enfant est sorti, mais elle ne crie toujours pas. La coucheuse saisit le cordon entre ses doigts et tâche de le couper avec une coquille de moule. Elle n'y parvient pas. Vite, elle tire dessus et le glisse d'un côté par-dessus l'oreille. Le reste vient. Le charme que Hila répète encore et encore finit par opérer. L'enfant ouvre sa bouche et commence à pleurer. Le visage de la mère, gonflé, se couvre d'un flot de larmes. Il faut maintenant nommer l'enfant qui vient de ressusciter entre nos mains. La coucheuse saisit son annulaire entre ses doigts et chuchote le nom de notre vieille mère. L'enfant ne réagit pas. Elle prononce d'autres noms auxquels l'enfant ne réagit pas non plus. Elle redit le premier et l'enfant lève les bras comme sous l'effet d'un coup de bâton. Ses jambes se tendent aussi à la redite de deux autres noms qu'elle portera aussi. Mais cette nuit, c'est le premier qui compte. Le visage baigné de sueur et de larmes, la mère nous regarde avec un sourire. Sonic est revenu.
Lucie Riandet lisait tout à l'heure Bérangère Cournut, un dernier extrait de votre texte de Pierre et d'Os, un extrait de naissance et d'accouchement. En fait, vous le disiez au début de l'entretien, l'idée de la maternité est très présente, mais j'ai envie de dire l'idée un peu large de la maternité, la manière dont les êtres comme ça viennent au monde, circulent, sont portés, ou même dont les enfants peuvent être agglutinés dans un igloo ou jouer pendant une veillée. Mais quand même, au milieu de cette idée très large de la maternité, le moment crucial de la naissance, peut-être parce qu'il est si proche de la mort, à plein de moments de votre roman et aussi dans la vie en général. Ça faisait aussi partie du projet, puisque vous disiez tout à l'heure la maternité était là comme un élément fort du projet littéraire. La prédominance de la présence de la mort pendant les naissances ou au moment des naissances, ça faisait partie du projet d'écriture.
Alors ça en faisait partie pour des raisons personnelles que je garde pour moi, mais en fait c'était chouette parce que justement j'ai trouvé comme souvent en fait pour les différents aspects de la culture inuite, dans la culture inuite j'ai trouvé tous les moyens d'exprimer ça sans avoir besoin de faire un étalage non souhaité absolument. Voilà. Et en fait par exemple chez les Inuits... En fait, je pense que c'est des choses que nous, sans doute, on s'interdit de penser, alors qu'en fait, chez les Inuits, c'est tout à fait codifié. Et en fait, la naissance, la grossesse, la naissance est entourée de toute une série de tabous qui sont assez proches des tabous qui entourent aussi la mort, tout simplement. Et donc, ça paraît. Puis voilà, quand on sait que un enfant va forcément porter le nom d'un ancêtre récemment disparu, dont on ne peut pas prononcer le nom tant que cette personne n'est pas revenue. Enfin, tout ça apparaît assez naturellement. Et puis là, en entendant l'extrait, évidemment, maintenant j'ai plus de recul sur le texte. Alors, parfois, j'arrive plus trop à faire la différence entre les choses que moi j'ai pu inventer et celles qui sont plus documentaires. Mais en fait, là, notamment dans cet extrait-là, je vois bien tout ce qui est documentaire. Les rites, la façon de pas pouvoir prononcer le nom d'un os parce que Saonic, ça veut dire os, en fait. C'est le nom de la vieille mère du roman. Et donc voilà, c'est ces tabous qui entourent ce moment-là. Et puis, quelle meilleure façon de parler d'une chose que de mettre un tabou dessus. Du coup, enfin, je veux dire, voilà, la mort, au moment de la naissance, prend une forme, enfin, une présence très importante, puisqu'il y a tous ces tabous qui les entourent l'une et l'autre. Voilà, je sais plus quelle était la question.
Non, mais du fait que c'était très présent de vouloir dire ça, à la fois d'un point de vue documentaire et dans un tressage avec de l'intime. Mais
oui, voilà, justement. Et en fait, c'est ça. Je trouve très libérateur que chez les Inuits, il y ait tous ces tabous, toutes ces règles autour de ça, parce qu'en fait, ça dit toutes ces choses que nous, on s'interdit un peu de dire ou de ressentir ou de faire des liens ou de peur d'avoir l'air un petit peu... soit oiseau de mauvais augure, soit quelqu'un d'un peu perché, vous voyez. Là, en fait, les choses sont dites et vécues très naturellement, et je trouve ça très beau, en fait.
D'autant que ça donne lieu à des moments joyeux où on va avoir une relation avec une toute petite fille qui vient de naître en l'appelant ma vieille mère. Donc ça crée aussi des espèces de d'hérédité à l'envers. Mm-mm. C'est hyper rigolo même, je trouve, Bérangère, qu'on y a quelque chose qui fait de la filiation un tissage plus compliqué que des linéarités auxquelles on va avoir desquelles on va avoir plutôt l'habitude en Occident.
Oui, et alors c'est marrant parce que tout à l'heure dans l'archive, Michel Therrien, elle disait qu'on n'appelle pas l'ours par son nom ours, on va l'appeler animal porteur de graisse, tout ça pour pas l'offenser. Et en fait, chez les Inuits, c'est pareil. Donc le nom a une vraie importance. Donc par exemple, là, cette vieille mère revient sous la forme d'une petite fille, elle s'appelle Saonic, mais personne ne va l'appeler Saonic. Tout le monde va l'appeler du lien de parenté par lequel il était lié à cette femme. Donc en fait, Saonic sera pas non plus forcément prononcé très souvent. On l'appellera ma petite mère, ma fille, ma tante. Et donc oui, ça crée un cycle. Et puis ça crée surtout un lien d'interdépendance. Alors là, pour le coup, plein de tendresse, plein de... c'est très beau aussi comme marque de respect à l'enfant, parce qu'on considère qu'on n'a rien à apprendre à cette personne qui revient. Et on va lui dire « Souviens-toi, tu te souviens comme tu faisais avant ?» Et on part du principe que cet enfant est porteur de toutes les connaissances de l'ancêtre dont il est, je n'ose même pas dire la réincarnation, dont il est le retour.
C'est bien comme ça un jour de dire que « Souviens-toi mon enfant comme tu sais des choses ». Merci beaucoup Bérangère Cournut. De Pierre Edos est publié aux éditions Tripode. Longue vie à lui, merci beaucoup.
Merci à vous.
À la prise de son ce soir, c'était Pierre Henry. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Merci beaucoup à Lucie Riande, Jeanne Aléos, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chasseur qui compose l'équipe de Par les temps qui courent. Vous pouvez réécouter cette émission quand vous voulez, où vous voulez, sur le site de franceculture.fr ou via l'application et ou en vous abonnant au podcast. Très belle soirée.